propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le total de l'après-midi sur Radio Okapi.
Merci de votre fidélité à Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous parlons de la gestion des eaux douces en République démocratique du Congo. Nous savons tous que la RDC a un immense réseau hydrographique. Alors aujourd'hui, de plus en plus, on parle d'une bonne gestion de ces eaux douces. Alors pourquoi doit-on gérer rationnellement les eaux de la RDC? Et les besoins sont toujours criants. Et pourquoi? Eh bien, nous aurons les réponses à toutes ces questions avec notre invité, professeur Béa, qui est un environnementaliste. Professeur, encore une fois, bonjour et nos meilleurs vœux pour l'année nouvelle.
Aussi, et je profite de cette occasion pour présenter le meilleur vœu aux fidèles auditeurs de la radio Okapi.
Bien, professeur, nous parlons de la gestion des eaux douces en République démocratique du Congo. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par les eaux douces?
Oui, bon, partons d'une petite genèse. La planète Terre renferme trois quarts de l'eau. Hein, la surface de l'eau sur la planète Terre, c'est trois quarts. Et dans les trois quarts, il y a 97%, c'est l'eau salée. C'est l'eau qui contient du sel. Mmh. Bon, avec les goûts salés. Et les 3%, vous pouvez en déduire, c'est l'eau douce. C'est-à-dire l'eau qui peut être consommée, qui n'a pas du sel. Et c'est ça l'eau douce. Donc, il y a l'eau salée qui se retrouve souvent dans les océans, dans les mers. Mmh. Et l'eau douce qu'on retrouve dans le fleuve, dans le rivière, dans le ruisseau, dans les sources. C'est ça l'eau douce qui n'a pas du sel, qui ne contient pas du sel.
D'accord.
Et là, dans les 3% d'eau douce, la RDC a environ 1% de cette eau-là. Et c'est juste, nous venons juste après l'Amazonie, donc le bassin d'Amazonie. Donc nous possédons une grande ressource en eau douce dans notre pays.
Voilà, nous possédons, vous avez parlé de 1%.
Environ 1% d'eau douce, des 3% d'eau douce du monde. C'est des chiffres qu'on peut toujours vérifier et qu'on peut toujours rectifier en passant.
Okay. Voilà, certains affirment que les ressources en eau douce de la RDC ne sont pas très bien gérées. Professeur, est-ce que vous confirmez cela?
Oui, la gestion de d'eau d'abord, d'eau douce. Quand nous allons parler au cours de cette émission, nous parlerons, quand nous parlons de l'eau, c'est l'eau douce. Alors, la gestion d'eau douce commence par sa production. Comment on peut produire l'eau douce? Comment on peut produire l'eau? Et ensuite par sa distribution. Mmh. Et enfin par la consommation auprès de, des consommateurs, faut que je me répète, qui peuvent en trouver un profit. Donc, nous avons la production d'eau. Comment nous produisons d'eau? L'eau douce dans notre pays, et nous avons l'eau de surface, nous avons les eaux souterraines, l'eau de surface c'est comme l'eau de fleuve, et l'eau de ruisseau, et nous avons des eaux souterraines qu'on tire à partir des forages dans le sous-sol. Mmh. Et comment nous distribuons cette eau? Alors, on peut distribuer l'eau par des réseaux. Alors, vous voyez les réseaux de distribution d'eau, c'est la régie des eaux qui s'occupe de ce travail de distribuer de l'eau. Et comment les consommateurs apprécient l'eau pour en tirer les profits? Parce que nous constatons dans notre pays, comme nous venons de le dire, que nous avons des grandes ressources d'eau douce. Elles sont produites par la régie des eaux qui a ce monopole. Mais comment elle est distribuée? Et ça pose encore beaucoup.
Votre correspondant vous a mis en attente.
Ouais, le professeur nous a mis en attente. Eh bien, on va vérifier ça. On va essayer de le rappeler tout à l'heure avec Tati Mapoukou. Je rappelle que nous étions en train de parler, échanger avec professeur Jean-Pierre Billard, expert en environnement. Avec lui, nous sommes en train de parler de la gestion rationnelle des ressources en eau douce de la République démocratique du Congo. L'eau est considérée comme un bien précieux à travers le monde, mais cette ressource n'est pas bien gérée en RDC malgré son immense réseau hydrographique. Alors comment gérer rationnellement ces ressources en eau douce de la République démocratique du Congo? On en parle avec notre invité, le professeur Jean-Pierre Billard, expert en environnement. Vous avez des questions, des préoccupations, appelez au 081 890 63 94, écrivez-nous à service@radiocapi.net. Dites-nous comment est-ce que les ressources en eau sont gérées dans votre milieu, et écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Nous tentons de rappeler notre invité, nous allons le recevoir encore dans quelques instants.
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Vous êtes sur Okapi, vous écoutez en ce moment le magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous parlons de la gestion rationnelle des ressources en eau douce de la République démocratique du Congo. Comme je le disais tout à l'heure, la RDC a un immense réseau hydrographique. Alors pourquoi les besoins en eau sont criants? Comment doit-on gérer rationnellement les eaux? Est-ce que le changement climatique qui affecte tous les pays du monde touche les réseaux hydrographiques de la République démocratique du Congo? Eh bien, on en parle, nous allons recevoir des questions. Les réponses à toutes ces questions avec notre invité, le professeur Jean-Pierre Billard, expert en environnement. Professeur, vous êtes de nouveau en ligne. Vous étiez en train de parler de la production et de la distribution de l'eau et la gestion par la population. Alors, par rapport à la production, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ces sujets?
Oui, on va poser la question sur la gestion de l'eau. Et je voulais signaler que tout au long de cette émission, quand nous allons parler de l'eau, c'est de l'eau douce. Alors, nous avons dit que l'eau douce, c'est l'eau non salée, et qu'on retrouve souvent dans le fleuve, dans les ruisseaux, dans des rivières. Alors, la gestion de l'eau douce comprend la production de cette eau, la distribution et la consommation de l'eau. La consommation, c'est les consommateurs qui sont des clients. Et la production est assurée, la production et distribution de l'eau en RDC est assurée par le monopole de la Régie des eaux, qui a ce monopole de production et de distribution d'eau douce dans le pays. Mais comment se fait la production d'eau dans le pays? Est-ce que nous en avons assez suffisamment? Et comment se fait la distribution? Et comment se fait la consommation? C'est de là où c'est cela qui comporte la gestion d'eau douce dans notre pays. Alors, maintenant, commençons par le commencement.
Par la production, oui.
Et la production d'eau est assurée par la Régie des eaux, qui en a le monopole. Hein, c'est-à-dire que nous avons les eaux de surface, qui sont des rivières, des ruisseaux et des fleuves. Hein, et nous avons les eaux souterraines, qui sont tirées à partir des sous-sols, à partir de forages, et ainsi de suite. Alors, maintenant, La Régie des eaux, qui a ses monopoles, produit suffisamment de l'eau. Hein, produit suffisamment de l'eau. En produisant de l'eau, il faut le distribuer. Mais entre la production et la distribution, il y a une étape importante, le traitement de l'eau. Comment se traite de l'eau par la Régie des eaux, ou comment se traite de l'eau d'une manière générale? L'eau produite, qui est brute, doit être traitée par des méthodes physiques ou par des méthodes chimiques, nous n'allons pas entrer en détail de toutes ces méthodes, et doit être traitée pour être potable, c'est-à-dire que propre à la consommation. Quand on dit l'eau est potable, c'est-à-dire que l'eau qui ne contient pas des germes et des substances nocives à la santé humaine. Dès lors qu'on constate que cette eau est devenue potable, c'est-à-dire qu'elle est bien traitée, on l'envoie dans la voie de distribution. Et la voie de distribution, c'est les réseaux de distribution d'eau de la Régie des eaux. C'est là où se trouve le grand problème dans notre pays. Les réseaux de distribution d'eau. nous avons suffisamment d'eau. Nous pouvons la traiter correctement si nous avons des intrants chimiques appropriés. Mais les réseaux de distribution d'eau n'est pas approprié, est insuffisant. Vous constaterez dans certains quartiers déjà établis et les gens n'ont pas d'eau. Et si les réseaux de distribution d'eau qui existent est déjà défectueux, les tuyaux sont coupés, il y a des érosions partout. Et c'est ça le grand problème qui se trouve dans notre pays, la gestion d'eau.
D'accord.
Part, dans la chaîne de gestion de distribution. Dans la chaîne de gestion, il y a le problème des réseaux qui se posent. Nous avons suffisamment d'eau. Nous pouvons la traiter, l'envoyer chez les consommateurs. Mais comment? Les réseaux de distribution d'eau posent des grands problèmes dans notre pays. C'est cela le grand problème.
D'accord. Nous allons accueillir un auditeur, Victor Ngopa, qui nous appelle de Tchekapa. Nous parlons de la gestion rationnelle des ressources en eau douce de la République démocratique du Congo. Victor Ngopa, vous êtes à Tchekapa. Bonjour et quelle est votre préoccupation?
Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Capi et mes meilleurs voeux à l'invité.
Hein. D'accord. Oui, merci. Quelle est la question, Victor?
Oui, j'avais juste une petite question. La RDC, c'est un pays qui a un grand cours d'eau. Supposons dans une province ou un endroit où il n'y a pas un réseau de distribution d'eau potable et que la personne a trouvé l'initiative de créer comment il peut produire une eau douce et une eau qui est potable peut-être pour sa famille ou soit pour une petite population qui est dans ce temps. Je ne sais pas à ce moment-là. Vous allez lui demander qu'il soit partenaire de la régie des eaux, qu'il n'existe pas dans les liens, ou soit pour qu'il paye des amendes pour cette
situation. Madame, merci. La communication n'est pas bonne. Malonga, vous êtes à Bandounouville. Bonjour et quelle est votre question par rapport à ces thèmes?
Oui.
Bonjour Malonga. Bon,
bonjour. Ma contribution, c'est celle-ci. Bon, c'est un regret, comme vous aviez songé à ce débat, vraiment c'est bien. Parce que nous, les consommateurs, nous sommes dessus. Et ceux qui sont raccordés et ceux qui ne sont pas raccordés, en tout cas, ils ne sont pas vraiment satisfaits par le régime des eaux. Ce que moi je vois, il y a une maladroite vraiment des gestionnaires de cette régie. Pourquoi? Parce que s'il y a la distribution d'eau, vous voyez que cette eau d'abord qui est distribuée n'est pas bonne et n'est pas vraiment bien surveillée. Je vous dis, s'il vous plaît, je vous dis, si vous parcourez même là, qui chasse, même ici chez nous, à Bandounouville, vous verrez combien de fois les tuyaux sont troués et les eaux coulent en désordre et les agents de régie des eaux passent sans contrôle. Alors, comment est-ce qu'ils parviendront à satisfaire la majorité de la population congolaise au moment où ils ne savent pas de gérer ce qui est distribué d'abord? Ce que moi je vois là-bas, l'État congolais, s'il vous plaît, si il y a vraiment souci d'encadrer la population. Puisque le rôle de l'État, c'est bien maintenir la sécurité et la santé surtout de la population. C'est ça l'État. Il ne faut pas être seulement un dirigeant ou bien commandant ou bien une autorité comme ça et la population est en train de souffrir, ne subit pas, ne gagne rien de sa nation et vous êtes là-bas. En tout cas, ce n'est pas digne. Raison pour laquelle j'ai dit que l'invité, est-ce qu'il peut m'expliquer si quelqu'un est en tête d'un mouvement ou bien d'un régime comme ça. Et si le bénéficiaire n'arrive pas à bénéficier convenablement ce qu'il doit, qu'est-ce que le bénéficiaire doit faire?
D'accord, merci beaucoup. Professeur Jean-Pierre Béat.
Oui, pour répondre à la question du premier intervenant, alors, nous avons deux milieux, le milieu urbain et le milieu rural. Dans le milieu urbain, c'est la régie des eaux qui s'en occupe, mais dans le milieu rural, il existe au sein des ministères de développement rural, dans ce sens-là, bon, parce que les ministères se changent souvent, un service d'hydraulique national qui s'occupe du milieu rural. Alors, si vous vous trouvez dans un endroit où il n'y a pas de réseau de distribution d'eau, on peut creuser, vous pouvez creuser faire votre forage et avoir de l'eau. À Kinshasa, les gens le font dans les quartiers périphériques. Ils font des forages, ils ont de l'eau. Mais il faut savoir comment tirer cette eau et par quelle source, par quelle roche l'eau passe. Parce que l'eau peut passer dans un milieu où suffisamment contaminé et où vous avez de l'eau contaminée avec des bactéries. Il faut savoir par où faire les le forage pour avoir l'eau potable. C'est ça le grand problème. Mm. Donc il faut, éviter ou faut peut-être éviter les spécialistes qui doivent vous dire à quel endroit il faut faire le forage. Parce que le forage, on ne le fait pas à n'importe quel endroit. Il faut faire le forage à des endroits appropriés. Vous pouvez faire un forage à un endroit contaminé et l'eau qui va sortir de votre forage sera toujours contaminée. Alors maintenant, pour notre ami qui se plaint, nous tous on se plaint de la qualité de l'eau qui nous arrive au robinet ou de rareté de l'eau. Parce que accéder à l'eau potable renferme trois paramètres. La distance d'accès à l'eau, souvent l'OMS prévoit 10 mètres, et la qualité de l'eau et la quantité de l'eau qui vient. Si vous prenez votre bidon d'eau pour aller décamper sur un rond-point, chercher de l'eau, vous n'avez pas accès à l'eau. Mais si l'eau qui arrive là où vous êtes n'est pas de bonne qualité, vous n'avez pas non plus accès à l'eau. Il faut avoir l'eau aussi en grande quantité. Alors, c'est le problème qui est vraiment une sorte de contradiction. En regardant un pays qui a beaucoup de ressources en eau, et les gens n'en ont pas accès à l'eau. Moi, d'après ce que j'ai écrit dans mon petit livre, le grand problème, c'est les réseaux de distribution d'eau. Et à ce problème des réseaux s'ajoute l'urbanisation.
Alors, professeur Béa, mais nous savons que la RDC a un immense réseau hydrographique. Pourquoi les besoins en eau sont toujours criants?
Mais justement, c'est ce que je vous ai entendu de vous dire. Nous avons beaucoup d'eau. Il faut les produire, c'est-à-dire qu'il faut les traiter et envoyer dans le réseau de distribution. Et le grand problème, il y a une chaîne qui est coupée entre la production et la consommation, c'est les réseaux de distribution d'eau. Les réseaux de distribution d'eau n'est pas fiable dans notre pays. Vous trouvez des endroits où un exemple que je peux vous donner déjà, si vous allez sur la route de Kimwenza, la route, il y a un grand réseau, une grande région qui s'est produite là-bas. Et les tuyaux d'eau qui amènent de Lukaya vers Kindele, les tuyaux sont coupés. Et les gens, il faut venir voir. Les gens se promènent avec les bidons et les enfants pour prendre de l'eau par-ci, par-là. C'est ça le grand problème. Si on fait attention au réseau, je crois qu'on va résoudre le problème d'accès à l'eau potable dans notre pays.
Mais professeur, professeur, est-ce que le changement climatique qui affecte tous les pays du monde touche également le réseau hydrographique de la RDC?
Non. Nous, il est prouvé, il a été démontré que malgré le changement climatique, nous avons suffisamment d'eau. Parce que nous avons notre fleuve Congo, qui a un grand bassin, qui a environ 64% d'eau de l'Afrique. Alors maintenant, ces réseaux, notre fleuve Congo est divisé en deux par l'équateur. Quand il fait saison sèche au nord, il y a saison de pluie au sud, au point que notre fleuve a un débit constant. Donc le changement climatique l'a été prouvé par des expériences et par des extrapolations statistiques que nous n'avons pas le problème d'eau pendant ces changements climatiques. En fait, quand il y a changement climatique, il y a des phénomènes. La sécheresse et les inondations. Oui. Pour la sécheresse, nous avons suffisamment d'eau. Hein, quand il fait saison sèche au nord et il y a saison de pluie au sud, si bien que notre fleuve est constamment ravitaillé en eau et le débit est constant. Et ce problème ne se pose pas tellement. Mais ce problème peut se poser en termes d'inondation, c'est-à-dire que lorsque l'eau est contaminée par des pluies torrentielles qui changent la qualité de l'eau. Mais la quantité d'eau, nous n'avons suffisamment. Mais ce que nous pouvons faire comme effort pendant ces changements climatiques, assurer aux consommateurs la qualité de l'eau, la traiter convenablement.
D'accord. On va accueillir deux auditeurs, Momo de Kalemi et Serge Kingi de Kindu. Vous voulez également participer, appelez-nous au 081-890-6394.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit, avec les mix de DJ Daddy.
Comment gérer rationnellement les ressources en eau douce de la République démocratique du Congo? Momo, vous nous appelez des Kalemi, bonjour.
Bonjour l'invité. En fait, bonjour aussi à tous les auditeurs et auditrices de Radio Capi.
Quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation est celle-ci. Je voulais juste savoir, parce que j'ai bien entendu, en fait, si notre invité vient de vous expliquer sur les réseaux de distribution d'eau. Alors, ma préoccupation est celle-ci. Ici, où nous sommes à Kalemi, nous avons le lac Tanganyika, nous avons aussi la rivière Lukuga. Et je pense, à propos de ces rivières-là, du lac aussi, alors, les régies des eaux, c'est un régie qui nous donne Mais là, c'est tout. Et si vous remarquez et vous constaterez que, quand on est tenté de puiser de l'eau à la régie des eaux, mais si la capacité à qui tu viens de puiser à la régie des eaux, et si vous ne les filtrez pas, il y a à tout cas des sapés. Et nous mettons toute confiance à la régie des eaux, soit disant que non, peut-être à travers la régie des eaux, peuvent nous fournir des bonnes et de bonnes qualités qui vont nous permettre de bien consommer de l'eau. Alors, j'ai un peu attendu, c'est un langage qu'on se le dise, en tout cas on dit non, si c'était une quantité de l'eau de la rivière qui coule, là c'est je ne sais pas si c'est. Peut-être l'invité pourra nous dire ou soit nous confirmer que l'eau qui coule et l'eau qui ne coule pas, il y a une différence selon la consommation ou soit selon la stabilité d'une certaine ou une autre quantité d'eau par rapport à ça.
D'accord,
et
merci.
Je reviens aussi à la question que je vais poser aussi à l'invité.
Rapidement.
Il peut nous donner vraiment quelle catégorie de l'eau qu'on peut consommer, à part la région des eaux, parce que nous sommes aussi désolés compte tenu de la qualité dont la région des eaux est en train de nous fournir à propos de du
d'accord.
On s'est dit pour avoir du
volume. Merci. Serge Akingi, merci. Serge, vous êtes à Kindou. Bonjour, quelle est votre question? Soyez bref.
Oui, merci beaucoup. Bonjour à vous et meilleurs vœux aussi à notre invité du jour.
Quelle est votre question, Serge?
Oui, ma question est celle-ci. Quelles sont les méthodes à préconiser pour rendre l'eau propre? Ça, c'est ma première question. La deuxième question est quelles sont les qualités d'une eau dite potable entre l'eau de la régie des eaux ou l'eau de la source? Quelle est la meilleure eau à consommer pour ces deux différences-là?
Merci.
La meilleure.
D'accord.
Mathieu. J'aimerais aussi augmenter quelque chose par rapport à la consommation de l'eau et à la conservation aussi de l'eau. Vous savez, par rapport à la recherche que nous sommes en train de lire, quelques notions et quelques livres, on nous dit souvent que dès que vous laissez un peu votre eau ouverte, il y a le risque des bactéries qui peuvent s'infiltrer. Est-ce que ces bactéries-là ne sont pas nuisibles à la santé ou quoi?
Merci. Mathieu, vous êtes en Bandaka, bonjour. Quelle est votre question?
Oui, merci beaucoup. Ma préoccupation la suivante, je vous ai bien suivi en matière de l'eau, je suis environnementaliste, vraiment l'émission m'a beaucoup intéressé. Ici dans la ville de Mbandaka, comme vous l'avez évoqué dans votre exposé là, il se fait malheureusement que nous sommes entourés la grande surface avec de l'eau, mais nous avons un grand problème sur la consommation d'eau potable. Vous avez dit que sur la production, c'est la résine des eaux, bien sûr, la résine des eaux. Mais la quantité que la résine des eaux produit pour la ville de Mbandaka, ça ne tient absolument rien. La population parcourt en eau de puits, l'eau des sources, l'eau du fleuve qui n'est pas autrement dit potable. C'est parce qu'après les analyses qu'on a menées, vraiment c'est une eau très sale.
Quelle est la question?
Vous dites que la résine des eaux a la monopole pour distribuer l'eau en RDC. Ça, moi, je ne sais pas. C'est parce que dernièrement, on disait que tous les bailleurs, tous les partenaires, les ONGB qui veulent distribuer l'eau potable, on a libéralisé. Mais c'est ce qui est à la base de cette libéralisation, de créer beaucoup de maladies. Il se fait malheureusement aujourd'hui en Mbandaka, comme partout. Mbandaka se fait, ou l'Équateur, parmi les foyers de choléra en RDC. Cela n'est pas dit à cause de cette libéralisation des eaux où on prend des eaux de puits, on ne connaît pas l'origine, on met les chassés, on ne connaît pas si l'eau a été traitée. Tout le monde passe à la radio pour dire voilà, consommer cette eau, consommer cette eau avec les écrits au puits. Au puits, est-ce que au puits est potable ou eau potable est différente avec au puits. Et la population doit parcourir avec ses au puits. Sans l'analyse physico-chimique,
merci, Mathieu.
Pathologique. Donc, bref, je voudrais dire
merci.
Quelles sont les stratégies que vous pouvez émettre pour nous, les consommateurs, que nous souffrons aujourd'hui avec
les
taux plus élevés de maladies d'origine hydrique, choléra aujourd'hui, qui ne cherche jamais à quitter notre ville. Quelles sont les stratégies que nous pouvons, la population, parcourir pour essayer un peu.
Merci Mathieu. Professeur Jean-Pierre Béat, vous êtes expert en environnement. Vous avez suivi toutes les préoccupations des auditeurs. Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je comprends pourquoi les auditeurs sont vraiment excités, parce que l'eau, c'est la vie. Et chacun de nous ici, avant de venir au travail ou ce matin, a touché à cette ressource essentielle de la vie. Je vois pourquoi les auditeurs sont vraiment excités. Alors, maintenant, je vais répondre globalement à certaines questions. Quand on parle d'eau de la régie des eaux, c'est... Ce n'est pas la régie des eaux qui est propriétaire de l'eau. Souvent, la régie des eaux utilise des sources, des rivières, des fleuves pour produire de l'eau et distribuer. Alors, il ne faut pas confondre. Quand vous dites l'eau de la régie des eaux, vous croyez que la régie des eaux a inventé son eau. Non. La régie des eaux utilise nos sources d'eau, des rivières, des fleuves, des ruisseaux, et pour la distribuer. Et l'eau étant au départ brut, il faut la traiter. Et il y a des étapes de traitement des eaux. Je vous ai dit qu'entre la production et la consommation, il y a une étape importante qui est l'étape de traitement des eaux. Les eaux doivent être captées, donc les eaux brutes donc, doivent être captées, et on doit faire la flocculation. Après la flocculation, on ajuste les pH, puis on met les désinfectants, et on les envoie dans les eaux de distribution d'eau. Et c'est souvent, c'est au niveau des réseaux de distribution d'eau que nous avons des problèmes. D'où viennent les problèmes? Les réseaux sont coupés quelque part et les bactéries ou les déchets entrent dans les réseaux. Ou soit les eaux qui sont arrivées quelque part ne sont pas arrivées en destination des consommateurs. Et quand on envoie une autre quantité d'eau, et cela entraîne des rues et d'autres saletés que vous voyez arriver au niveau de robinet. Alors, maintenant, les méthodes appropriées pour avoir de l'eau potable. Alors, si vous n'êtes pas sûr de la qualité de l'eau que la régie des eaux vous donne, et je vous donne cette petite méthode, il faut acheter un filtre. Il faut acheter un filtre. Je ne fais pas la publicité des filtres, il faut acheter les filtres. Les filtres, ça se vend dans les magasins. Vous mettez votre quantité d'eau et ça sera bien filtré, parce qu'il y a certains filtres qui ont la capacité de phagocyter les germes, de phagocyter les bactéries, donc c'est retenir les bactéries.
Il y a aussi les purifiants. Il y a aussi les purifiants d'eau qui sont vendus à travers le pays.
Oui, on va arriver. Il y a le purifiant, oui, il y a le purifiant d'eau. Bon, moi je crois que la méthode la plus simple, parce que les purifiants, il faut toujours recourir à acheter ces produits tout le temps. Achetez votre filtre, et un filtre peut vous faire ça peut vous faire une année ou deux ans.
Oui. Professeur Jean-Pierre,
Vous mettez un peu de javel, deux à trois gouttes d'eau de javel par litre, et vous avez votre eau. Vous n'êtes pas sûr que l'eau d'agir des eaux n'est pas propre à la consommation.
Professeur, aujourd'hui, nous parlons plus de la gestion rationnelle de ces ressources en eau. Nous avons appris qu'il y a un projet de transfert des eaux des Lubangui vers le lac Tchad. Quelles seraient les conséquences, professeur Béat?
Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de réchauffement climatique. Certains pays voisins ont des stress hydriques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'eau. Le lac Tchad déjà est presque asséché de sa moitié, c'est-à-dire qu'il est presque vide. Alors, ces gens réclament le transfert de ces eaux, parce qu'ils connaissent bien les problèmes de réchauffement climatique et les frappent à plein fouet chez eux. Ils n'ont pas suffisamment d'eau. Et comme je viens de vous dire, nous avons suffisamment d'eau. Que ce soit pendant la saison sèche ou la saison de pluie, parce que notre fleuve a un débit constant. Alors, ces gens-là ont demandé à un certain moment, j'ai eu vraiment la chance d'assister à cette réunion, de transférer l'eau par les aquadiques, c'est-à-dire les grands tuyaux, qui peuvent traverser le désert jusque chez eux. Mais les problèmes techniques et environnementaux, se posent. Si on pense, c'est-à-dire qu'on prend cette eau en amont du fleuve, c'est-à-dire en amont de notre barrage Inga, notre barrage aura des problèmes de ravitaillement en eau. Vous comprenez? Et il y aura aussi des problèmes de navigation. C'est cette partie en amont qui est un peu navigable. Il y aura problème de navigation. Mais si on prend de l'eau en aval du barrage, il y a les problèmes qui se posent. Les eaux salées de la rivière et les eaux salées de l'océan peuvent monter. En montant, elles vont détruire tous les écosystèmes marins d'eau douce, avec tout ce que vous avez comme biodiversité, des poissons d'eau douce, des mangroves. On aura beaucoup de problèmes avec les eaux salées qui vont monter, en ce moment-là, quand nous tirons de l'eau en aval. Voilà les problèmes techniques et environnementaux qui se posent jusqu'à présent. Parce que, au fait, nous gaspillons, entre guillemets, 40 000 mètres cubes d'eau par seconde, d'eau douce, qui entre dans l'océan. Mmh. Hein, 40 000 mètres d'eau douce qui entre dans l'océan, c'est un gaspillage. En principe, ces 40 000 mètres d'eau douce par seconde, là, devraient être transférés ailleurs, les autres pouvant profiter. Mais si nous les tirons en aval, les eaux de mer vont monter. Et en montant, ils vont détruire les écosystèmes marins. Et c'est des problèmes environnementaux qui se posent aussi.
Voilà.
Si nous les tirons en amont, oui, il y aura des problèmes de navigation et les problèmes des éboulements et les problèmes de notre barrage hydroélectrique qui va se poser aussi. Donc, il faut réfléchir de quelle manière où tirer de l'eau, et c'est des grands problèmes aussi.
Alors pour...
C'est des grands problèmes, oui, techniques environnementaux qui se posent aussi.
Alors voilà. comment doit-on gérer rationnellement les eaux que nous avons, professeur? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une gestion rationnelle?
C'est-à-dire que, rationnellement, c'est-à-dire qu'il faudrait que ces eaux profitent d'abord aux Congolais, c'est-à-dire que aux consommateurs congolais. Ce n'est pas comme l'énergie électrique que nous vendons ailleurs, que nous, entre-temps, on se trouve dans l'obscurité. Il faut que ces eaux profitent aux Congolais. Profitent aux Congolais, cela veut dire quoi? Il faut produire ces eaux-là, les traiter, les envoyer à la distribution, et chaque Congolais devra avoir accès à cette eau. Mais qu'est-ce que nous constatons? La régie des eaux produit de l'eau.
Oui.
Elle traite, je suppose bien, et l'envoie dans les réseaux de distribution qui est défectueux. Ici, par exemple, si vous venez à l'université, moi j'habite à l'université, si vous venez à l'université, il n'y a pas un réseau de distribution d'eau. Les gens se déplacent avec des véhicules pour aller chercher de l'eau ailleurs. Mais ce n'est pas normal. Tant que notre eau ne profite pas, on ne fait pas une bonne gestion. Alors, dès après avoir servi les Congolais en eau potable, nous pouvons penser à vendre notre eau, pourquoi pas. C'est nos ressources naturelles. Nous pouvons en tirer profit en vendant les eaux aux voisins et obtenir des devises qui peuvent permettre le développement et élargir et améliorer les réseaux de distribution d'eau.
D'abord, donc, vous avez dit qu'il faut d'abord commencer par satisfaire les besoins intérieurs.
Oui, il faut satisfaire les besoins locaux. Comment voulez-vous que les voisins puissent avoir de l'eau potable, notre eau potable, que nous-mêmes ne n'avons pas? Vous voyez, c'est vraiment des contrastes. C'est ce que, pour la bonne gestion de l'eau, je crois que ça se base sur le plan technique, économique et social. Technique, il faut produire de l'eau convenablement, distribuer de l'eau chez les consommateurs, distribuer une eau potable. Alors, maintenant, économique, il faut vendre cette eau. Après que les autochtones, c'est-à-dire après que les Congolais aient suffisamment cette eau. Il faut vendre. Il faut le vendre. L'eau doit avoir un prix. En ce moment-là, nous profiterons sur le plan économique des devises et qui peuvent permettre de nous développer correctement. Voilà.
Bien.
Voilà la bonne idée.
Merci, professeur. D'accord. Merci, professeur Jean-Pierre Béat. Je rappelle que vous êtes expert en environnement. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bonne journée.
Merci beaucoup.